Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous, merci David pour ta bonne animation musicale, c'était très sympa tout ça, on te retrouve tout à l'heure après l'émission, comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons Nelly Ferrou-Rocher et Myriam qui sont membres de Atlantique Land Récif. Bonjour mesdames, comment allez-vous ?
Bonjour.
Bonjour,
bonjour à tous.
Bonjour.
Bonjour toutes les deux. Alors, on va passer une petite heure ensemble pour découvrir votre association et ses actions. C'est assez intéressant d'ailleurs en préparant cette émission. Mais j'ai découvert une association que je ne connaissais pas et c'est Récif. On va en parler bien sûr. On va d'abord écouter le flash info national et international et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. C'est parti. Alors. La tradition ici, mesdames, quand on commence l'émission, c'est d'avoir une petite trajectoire personnelle sur nos invités, histoire d'avoir une petite idée du parcours qu'ils ont fait avant d'arriver aujourd'hui à ce micro. Je vois que Myriam piaffe d'impatience, elle va nous parler un petit peu d'elle. Allons-y, Myriam.
Alors, moi, je suis née à Lille. Il y a Pibal-sous-Caillou, à Lille. Et donc, j'ai grandi à Angoulême. J'ai passé 5 ans de ma vie... chez les Ch'tis, là-haut, et je suis vite redescendue en Aquitaine, en fait. Et j'ai terminé mes études à Bordeaux, et ensuite, depuis 97, je suis dans les Landes.
Dans les Landes, oui.
Dans ma patrie d'adoption, j'habite Messanges, et un beau jour, donc je fais grosso modo de la gestion administrative pour plusieurs structures actuellement. Et un beau jour, mon voisin m'a appelé au secours pour venir en aide à Atlantique Land Récif, qui avait des difficultés à gérer l'administratif et voilà la suite du départ de la salariée. Mmh. Donc je suis dans l'aventure depuis 2022 à peu près et voilà, donc entourée, je seconde les bénévoles qui forment cette association.
D'accord, très bien, merci beaucoup. C'est au tour de Nelly de nous raconter un petit peu sa trajectoire.
Alors moi je suis landaise, née à Dax, puisque mes parents sont sur Azur. Il n'empêche que je suis aussi allée en fait dans le nord, puisque j'ai fait mon DESS à Calais. Donc c'était sur l'environnement, puisque ça m'a toujours beaucoup attirée et intéressée. Donc j'ai fait un truc un peu classique, hein, avec un doc de biologie, pour arriver en fait sur... un DESS, mais ça n'existe plus. On parle de Master 2, je crois, aujourd'hui.
Oui, c'est ça,
tout
oui, c'est
évolue.
Ça n'existe plus.
Non, ça n'existe plus du tout. Mmh. Voilà. Et donc, du coup, j'étais donc dans l'environnement et j'y reste, bien sûr, puisque très attachée à l'association depuis le début. J'avais fait mon stage en licence à l'époque. C'était avant-hier. Donc, je suis attachée à cette association depuis donc une trentaine d'années aujourd'hui.
D'accord, très bien. On va parler du coup de votre association. Alors, ça s'appelle Atlantique Land Récif. Bon, déjà, le nom donne déjà une petite idée sur le sujet dont on va parler. Parlons de cette association. Elle a été créée. Donc, alors, vous fêtez vos 30 ans cette année. Donc, il y a une actualité qu'on va mentionner bien sûr tout à l'heure. Alors, c'est quoi l'histoire de cette association ? Qui est-ce qui a créé ça ? Dans quel but ? Dites-moi.
Alors, s'il y a une personne que l'on doit citer, c'est bien sûr Gérard Fourneau, qui est à l'origine de toute cette aventure juste totalement improbable et assez incroyable, dans la mesure où nous sommes dans les Landes, et donc c'est très sableux. Et Gérard, à l'époque, était un pêcheur de surf casting, et ce qu'il souhaitait, c'est pouvoir tout simplement en fait, faire sa pêche tranquillement. Et les années faisant, petit à petit, il y avait de moins en moins de poissons. Donc, retraité de l'armée, il a commencé à faire des recherches pour savoir ce qui était possible d'être conduit pour continuer finalement à assumer sa passion. Il a fait des recherches dans le monde entier et notamment s'est inspiré en fait du Japon où ils étaient très très avancés à l'époque là-dessus et s'est dit pourquoi pas mettre en place en fait des récifs dans les Landes et c'est pour ça qu'était né à l'époque Aquitaine Land Récif, donc ALR, qui est aujourd'hui Atlantique Land Récif, et c'est grâce à lui, à Gérard Fourneau en 96 où il y a eu les premières immersions en fait dans les Landes.
D'accord. Bon, alors, en général, les pêcheurs de surfcasting, ils n'aiment pas trop qu'il y ait des rochers, quand même, parce que c'est vrai que les Landes, c'est l'endroit idéal pour ça, parce que il n'y a pas beaucoup de rochers. Alors, Vous êtes combien de personnes, combien de bénévoles dans cette association?
Il y a une vingtaine de bénévoles actifs, entre les plongeurs, les personnes qui gèrent plus la partie administrative, les animations, donc entre 15 et 20 bénévoles actifs en fait.
D'accord. Alors un récif, c'est le cœur du sujet un petit peu, c'est un mot qui va revenir plusieurs fois, on va commencer par le définir, c'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce donc un récif?
Alors les récifs artificiels aujourd'hui sont reconnus comme des supports qui permettent en fait de reproduire les fonctions naturelles et écologiques en fait pour les espèces qui les fréquentent. Donc du coup en fonction de la forme, de la complexité en fait, de la façon dont ils sont fabriqués, ils augmentent en fait les niches écologiques qui permettent en fait, qui vont être mieux pour le milieu en fait qui est autour de lui et qui vont favoriser des fonctions écologiques. Il y en a quatre, la protection, pour avoir un habitat pour certaines espèces de poissons. Oui. La reproduction, qui permet tout simplement qu'ils soient tranquilles en fait, pour faire ce qu'ils ont à faire.
Oui.
Une nurserie pour pouvoir éventuellement avoir des stades juvéniles et donc des bébés. Mm-hmm. Et bien sûr, d'alimentation en fait, pour permettre en fait, tout simplement de, ben, d'alimenter les espèces qui sont autour.
Mmh. Oui, bon, alors donc on vous disait, c'est vrai que dans les Landes, on n'a pas beaucoup de rochers. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup de sable. Donc ces récifs-là, ils sont artificiels. Ils viennent en plus de ce qui existe déjà, du milieu naturel. C'est pas une restauration, hein, donc, enfin, pas pour nous en tout cas. Peut-être qu'il y a des endroits où, je ne sais pas si les récifs coralliens, justement, ils ont besoin justement de faire des choses artificielles ou pas. Nous, on n'en a pas en tout cas. Enfin, du corail, je crois qu'il doit y en avoir dans le gouffre. Hein. Il me semble que dans le gouffre, on peut en trouver. Mais voilà, donc là, le but, c'est faire un petit peu des maisons pour les animaux qui sont dans l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ici, en tout cas, on va se concentrer bien sûr sur notre côte. Qu'est-ce que ça apporte de plus, à part la quantité?
Une grande qualité, finalement. Mmh. Puisqu'en fait, on va avoir une biodiversité qui est assez riche et importante et diversifiée entre des espèces de vertébrés. Mmh. Donc ça va parler en fait aux pêcheurs qui nous écoutent, des tacos, des congres, des chinchards, des balistes. Mmh. Étonnamment, parce que normalement, les balistes sont en train de remonter avec le changement climatique, d'ailleurs. Mais il y a également aussi des espèces d'invertébrés qui sont fixées, comme des anémones marguerites, ou des anémones bijoux, des hermelles. Il y a aussi... Alors là, je vous parlais d'invertébrés fixés, mais aussi des mobiles, comme des poulpes, des sèches.
Oui.
On peut avoir énormément en fait, de choses. Et bien sûr, ce qui est intéressant et un des objectifs cachés, mais pas trop, des pontes de calmars, de poulpes, de sèches ou des nudibranches. On va avoir finalement une biodiversité assez importante en fait, sur ces récifs aujourd'hui.
Oui. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste en biologie marine.
Oui.
Du coup, les zones de nidification, etc. Alors, en dehors de récifs, ces animaux-là, ils sont... Comment est-ce qu'ils font? Ils vont ailleurs? Parce que je veux dire, ils font pas dans le sable, sur le sable, j'imagine. En dehors du gouffre, qui est quand même un endroit particulier, qu'est-ce qu'ils utilisent d'habitude comme habitat, ces animaux, ceux qui sont venus coloniser ces modules?
Alors, ils font comme ils peuvent. Ouais. Ou alors, finalement, ils arrivent à se passer le mot. On ne sait pas comment, mais finalement, dès qu'il y a... quelque chose en dur, la biodiversité se fait assez rapidement avec une concrétion et des premiers niveaux de films qui arrivent en fait à couvrir le récif et petit à petit en fait la vie se met en place. Mais finalement en fait que ce soit, pardon hein, je vais peut-être en choquer certains, mais une bouteille ou un déchet, la biodiversité va s'y mettre de la même manière et donc ils font comme ils peuvent, mais souvent en fait ça circule, hein, donc du coup ils vont arriver soit du Pays Basque, soit descendre en fait le long des côtes.
C'est vrai que souvent on a fait, alors je crois que ça se fait peut-être encore, mais je crois au début c'était ça, on coule des bateaux, hein, des épaves deviennent des refuges aussi pour des tas d'espèces, hein, avec tout ce qu'il va avec, c'est-à-dire des cochonneries. Hein, alors si c'est un bateau entre guillemets relativement récent, ben, il peut avoir dans ses cuves des hydrocarbures, évidemment, donc là c'est moins cool quand même pour les animaux. Et donc c'est les Japonais qui sont les maîtres pour ça, qui ont lancé cette manière de faire volontairement ou pour se débarrasser en fait des bateaux qu'ils ont coulés, ou alors vraiment ils se sont dit déjà au départ tiens ça va servir de refuge.
Alors je dirais les deux, mon capitaine, puisque effectivement il y a eu la guerre qui a fait que certains bateaux ont coulé et se sont aperçus qu'il y avait effectivement un développement en fait de biodiversité de poissons et c'était très intéressant pour les pêcheurs. Et eu égard en fait à cette observation empirique, ils ont développé ça et aujourd'hui ils sont tellement forts qu'ils arrivent en fait à faire leur propre récif adapté à telle ou telle espèce. Donc ils ont par exemple des récifs pour les homards, des récifs pour spécifiques. Et ça c'est encore une fois c'est eux les ceux qui sont encore une fois qui ont vraiment l'histoire, qui sont très très performants et pertinents en fait sur cette question-là. Mais les États-Unis sont pas loin non plus, mais le Japon devant, oui.
D'accord. Donc on a parlé un petit peu de ce qu'on appelle, vous appelez des modules, hein, je crois, ce que vous allez mettre sur le fond. Donc il y a une partie design quand même, hein, qui est, je parle design pas forcément d'un côté esthétique, mais utile hein, par rapport aux animaux. Donc il y a une adéquation entre la forme qu'on va choisir, la taille, que sais-je, et les espèces qui vont s'y sentir à l'aise, je suppose. De retour avec Nelly et Myriam, mais si la mer existe, hein, la mer n'existe pas, c'est une licence, on appelle ça une licence poétique, bien entendu. Alors oui, donc 30 ans, vous en avez fait des choses en 30 ans, donc votre job ça a été quoi ? De faire des, ce qu'on appelle des modules, hein, donc des récifs artificiels. Alors d'abord, en quoi sont-ils faits ? Il y a du béton et du métal, je crois, des fois ?
Alors, il paraît. Non, c'est vrai. Alors, à l'époque, nous n'avions vraiment absolument pas d'argent et nous avions récupéré des anciennes buses de béton réformées de canalisation. Mmh. Elles n'étaient pas polluées, mais il n'empêche que oui, ça reste du béton. Oui, oui. Oui, c'est pas exemplaire, mais à l'époque, encore une fois, on a fait avec ce que l'on avait et on avait assemblé en fait ces buses ensemble pour créer en fait des structures un peu chaotiques qui étaient finalement super intéressantes en fait pour les poissons déjà à l'époque. Et finalement, avec les recherches qui se sont poursuivies en fait avec Gérard Fourneau, il y a eu effectivement ce que vous avez dit précédemment, à savoir un travail sur le design de ce qui était le plus stable, qui n'allait pas s'enfouir et intéressant pour en fait l'accueil de nos locataires, les poissons en fait. Donc effectivement, on a différents types de récifs, en fait pas beaucoup. On a effectivement les buses, certains ont disparu avec l'enfouissement, un format en tipi, on dit, et un babel un petit peu plus lourd et avec une forme un petit peu différente. Oui. Je vous invite à aller sur le site internet de l'asso pour les voir, je pense que c'est plus simple. Oui, c'est compliqué à expliquer.
Il y a plein de choses sur le site intéressant.
Ouais. Donc voilà, en fait, nous, effectivement, on a des formes qui permettent en fait, à certains poissons de s'y retrouver, puisqu'il y a des ouvertures plus ou moins importantes. Mmh. Voilà.
D'accord. Alors, vous avez des zones. Hein, vous allez en parler de la côte. On va se concentrer sur la côte landaise. Hein, donc, il y en a trois. Alors, Cap-Breton. On va parler évidemment du gouffre, comme à chaque fois qu'on parle de l'océan ici. Il y a Souston-Vieux-Boucau. Et Messanges, Azur, Moliètes. Donc, c'est trois ça. Concessions. Alors, concessions, c'est, je reprends les termes que j'ai trouvés dans votre documentation. Ça veut dire que quelqu'un vous a accordé la possibilité d'utiliser une zone pour une durée encadrée.
C'est ça, c'est l'État en fait qui a accordé les concessions marines à la communauté de communes en tant que concessionnaire et à Atlantique Land de Récif en tant que gestionnaire.
D'accord.
Donc c'est effectivement sur les trois zones dont vous parlez, chacune bénéficiant d'apports alluvionnaires. Donc Cap-Breton, ça va être le lac d'Ossegor, le port d'Albret à Vieux-Boucau-Souston et le courant du Fché à Messanges-Moliètes.
Oui.
Donc voilà, l'idée c'est cela. Donc ce qui est intéressant aussi à Cap-Breton, c'est effectivement les interactions avec le gouffre. Donc il y a des espèces qui vivent dans le gouffre, comme le Saint-Pierre qui vient manger en fait sur les récifs, on le retrouve là aussi. Mais il vit plus en profondeur.
Oui. Donc il y a eu un choix quand même, ça n'a pas été fait au hasard du coup, puisque effectivement vous avez choisi trois zones où il y a a priori des alluvions, en tout cas, enfin moi je vois en tout cas le courant du Ché, tous ceux qui sont allés ont bien vu la couleur de l'eau qui sort de la rivière, hein, donc on sait bien que c'est de l'eau qui est chargée en nutriments, chose intéressante. Donc ça a été choisi parce qu'on s'est dit, là forcément, les animaux qui vont venir s'installer, ils ont l'eau courante, l'électricité et ils sont nourris, logis. Hein, c'est un peu ça l'histoire.
C'est ça. Et cette concession-là, elle bénéficie encore. Enfin, les amas de buses sont restés intacts parce qu'ils ont. Il y a eu les buses ont été. Il y a eu plus de buses en fait amoncelées en un seul endroit, ce qui fait qu'elles ont pu rester. Et c'est vrai que ça crée un lieu de vie extraordinaire. Et donc il y a des espèces qu'on ne retrouve pas sur les deux autres sites,
comme
les hermelles par exemple, qui sont c'est une espèce qui est protégée
c'est quoi
en Bretagne. C'est un petit ver en fait
ah, oui.
Qui crée une espèce de petite concrétion, en fait. Il y en a beaucoup au Mont-Saint-Michel.
D'accord. On les trouve dans le sable d'habitude ou dans les rochers, forcément, ces animaux-là ?
Sur les rochers.
Sur les rochers, d'accord.
Ouais, okay. Ouais, ouais.
Bon, je connaissais pas. Et est-ce que vous avez déjà une idée, un retour ? Parce que quand même 30 ans, c'est pas mal. Vous avez quand même une idée déjà de l'impact des actions qui ont été faites par votre association. Vous pouvez déjà un retour sur ça ?
Bah, les pêcheurs sont les premiers satisfaits, en fait, aujourd'hui. Et pour dire que effectivement la biomasse a augmenté, en tout cas en termes d'espèces halieutiques, c'est ce qui les intéresse. Et donc toute la pêche artisanale de Cabreton est plutôt favorable à cela. Après, on va renouer un petit peu avec eux pour essayer de recréer des projets à l'avenir. Oui. Et c'est ça l'idée, en fait.
Oui, ça, il faut travailler en partenariat avec eux. Oui. Alors, parce que ça fait partie aussi des... Comment dire, ces modules endroits, ils sont pas faits pour pêcher au chalut. Hein, c'est une zone, évidemment...
qui est interdite à la pêche.
Hein, voilà. Donc, ouais. Du coup, ça fait une barrière, presque comme si vous aviez mis une clôture. Attention, pêche interdite après cet endroit-là. Comment ça se passe avec les pêcheurs par rapport à ça, justement, votre partenariat fonctionnait comment ?
Alors, Gérard Fonneau était très proche d'eux, et c'est vrai que avec le temps, on est peut-être les contacts sont moins faciles aujourd'hui, mais ils sont conscients, en fait, du succès des récifs. Et puis cette zone-là, c'est pas une aire marine protégée parce que c'est trop petit, on n'a pas pas prétendre à devenir une aire marine protégée, mais c'est quand même un lieu, un écosystème qui a été créé et qui est autonome aujourd'hui. Et y a des espèces qui viennent chasser, qui viennent juste pour chasser dans ce coin-là. Il n'y a pas que les humains.
Oui, bien sûr.
Donc voilà.
Ouais, alors j'imagine que si on va sur les étals à Cabreton, notre chouette marché, hein, parce qu'on a vraiment la chance, très rare en France d'avoir un marché comme ça, on doit trouver des espèces, justement. Des fois, je me dis, tiens, parce que connaissant effectivement le profil un peu des plages et des fonds, tiens, il y a des espèces là où c'est plutôt dans les rochers, ça, en général, etc. Donc je pense qu'il y aura un impact direct sur les prises que font les pêcheurs qui mettent à la vente. Et on n'aurait pas du tout les mêmes choses dans notre panier quand on va faire les courses si vos récifs n'existaient pas.
C'est possible, oui. Oui. Le référent scientifique dirait que tout cela reste à démontrer, mais c'est ce qu'on s'attelle à faire d'ailleurs.
D'accord.
Depuis 30 ans. Mais oui, effectivement, oui.
Alors le fondateur de votre association, est-ce qu'il est content ? Est-ce qu'il a vu quand même l'évolution des prises ? Puisque en pêchant, il n'avait pas beaucoup de prises.
Ben, il est décédé, mais il est content de là où il est, probablement.
Il a eu le temps quand même de voir progresser.
Ouais, il avait eu le temps et une de ses fiertés, j'espère, en fait, que c'était ça, en fait, c'est de pouvoir en parler au Japon, justement. On était allé, j'ai eu la chance de pouvoir y aller avec lui en 2015. Nous avons été invités, en fait, par la SFJO, la société franco-japonaise d'océanographie, pour parler, en fait, de cette petite association hollandaise, en fait, qui arrivait à avoir des résultats intéressants. Et on avait pu parler, en fait, de nos travaux. Et je pense que cette invitation et le fait qu'effectivement on puisse transmettre ce qui avait été fait depuis 1996, oui, je pense qu'il a été fier de pouvoir effectivement voir que tout son travail titanesque depuis lors avait eu des effets très très positifs, en fait, sur son territoire.
Très bien. Et mesdames, c'est le moment de faire une nouvelle pause, écouter encore un petit peu de musique et le flash info local. Et on se retrouve ensuite. Et nous voilà de retour. Donc, alors, il y a des petites choses à dire. On va parler de votre actualité, bien entendu, parce que qui dit 30 ans, ça se fête quand même, 30 ans. Donc, vous avez prévu quelque chose, un événement marquant à cette occasion.
Ben oui, effectivement, le 6 juin prochain, samedi 6 juin, on va fêter les 30 ans de l'asso et... En deux phases, en fait. On va faire une conférence le matin. Donc, ce sera au centre des séminaires à Moliets.
Oui.
Et vous êtes tous conviés, on vous attend nombreux. Ce sera en présence d'Hugo Verlhomme, qui va co-animer avec Nelly, qui est ici, la conférence. Et puis, il y aura quatre scientifiques, au moins. Il y a Sylvain Pioche, qui est docteur en géographie, Jean-Claude Dauvin, docteur en océanographie. Vous avez Émilie Milon qui travaille au Centre de la mer à Biarritz, qui est chercheuse et docteur en biologie marine. Donc ça va être très dense, ça va être très intéressant. Il y a Mathis Georges qui est notre référent scientifique, qui est biologiste marin également, qui reviendra sur le suivi scientifique de l'association. Et puis il y a des étudiants qui travaillent sur un projet qui est en cours là, de modélisation en 3D des récifs existants, et donc qui seront là aussi pour présenter ce qu'ils ont fait.
Oui, ça c'est intéressant. On peut voir d'ailleurs des vidéos sur votre site. Hein. C'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure du site. Je remettrai un lien parce que vraiment ça vaut le coup de le visiter. Quand même.
Alors ça c'était en amont, mais actuellement il y a vraiment 5 étudiants qui font un mémoire d'initiation à la recherche sur la thématique, dans le but d'optimiser un petit peu l'existant et puis pourquoi pas aussi de réimmerger des structures qui soient vraiment, qui répondent vraiment aux besoins des poissons, en fait, de la vie marine.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et dans un deuxième temps, je voulais vous dire aussi, on fait une fresque de la biodiversité en partenariat avec le club de sauvetage côtier de Messanges, le Waitete Sauvetage Côtier. Voilà, donc ce sera l'après-midi. Vous pourrez trouver tout ça sur le site dans la rubrique Agenda.
Oui, bien sûr. Bon, voilà, donc c'est une actualité. Bon, je mettrai aussi le lien dans le podcast. Alors oui, ce sera l'occasion aussi de faire un petit peu un bilan scientifique de ces 30 ans. On a parlé tout à l'heure de science. Effectivement, tout ça, ça nécessitait des compétences. Vous êtes devenu aussi quand même interlocuteur. Si jamais on se pose des questions sur qu'est-ce que ça fait d'avoir des récifs, etc. dans le coin, on va avoir tendance à se tourner vers vous. Vous êtes devenu quand même... peut-être pas un expert, mais quelque chose d'équivalent, quand même. Oui.
Expertise, on a l'expérience, ça c'est vrai, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, et le colloque des 30 ans est là pour en témoigner, mais on n'est pas les seuls. En fait, on a une autre association, en fait, un peu plus au nord, la DREMCA, qui fait aussi, en fait, la même chose que nous, à savoir, effectivement, mettre en place et immerger des choses pour la vie marine également. Mais là où vous avez raison, c'est qu'on est aujourd'hui repéré, et par là, en fait, certains scientifiques viennent nous voir, ou des étudiants viennent nous voir, pour pouvoir, en fait, éprouver certaines choses et utiliser, j'espère aussi, sur le long terme, nos récifs comme un living labs. On parle de laboratoire vivant, où on pourra peut-être éventuellement mettre des outils de mesure pour voir, en fait, quelles sont l'évolution maintenant des changements climatiques sous l'eau. Mais tout ça, en fait, encore une fois, ça se fait avec des connaissances, et nos scientifiques, en fait, qui vont être là le 6 juin, de la même manière, nous apportent aussi, pour le coup, leur expertise et leur professionnalisme pour effectivement nous conseiller pour aller sur tel ou tel projet dans cette ligne de science. On avait eu la chance, en fait, de pouvoir héberger une thèse, et ça nous a permis, en fait, d'aller de la conception jusqu'à la recherche. Avec ce qui se passe, ce qu'a dit Myriam tout à l'heure, on a effectivement aussi cet outil-là de suivi scientifique pour voir, en fait, que ce que l'on a mis en place, c'est réel, et ça se développe, et il y a un suivi très précis qui est fait par nos plongeurs qui sont des bénévoles.
Oui, bien sûr,
Donc du coup, il faut le signaler aussi, parce qu'encore une fois, ce sont que des personnes qui donnent, encore une fois, de leur temps pour, se faire plaisir à plonger, mais parfois, ils vont aller gratter, ils vont aller, en fait, prendre du temps pour mesurer, suivre. C'est un vrai travail, en fait, de science participative, et on a la chance, effectivement, d'avoir ces personnes-là, et on est à la recherche, bien sûr, toujours, de plongeurs minimum niveau 3, qui puissent nous aider, en fait, à continuer ce suivi scientifique là, qui est très important pour notamment nos financeurs qui attendent aussi, entre guillemets, alors c'est pas un retour sur investissement, mais effectivement, il y a eu de l'argent public qui nous a été alloué, mais aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir continuer.
Avoir un petit bilan, oui, effectivement, il faut suivre un petit peu ce qui se passait. Donc, vous avez des plongeurs qui vont voir ça. Ces récifs aussi peuvent avoir une vocation, entre guillemets, de loisirs, donc pas forcément pour pêcher, mais aussi, voilà, parce que les plongeurs, c'est certainement plus sympa de plonger à côté d'un récif que juste sur du fond sablonneux, enfin, j'imagine. Et donc, ils peuvent participer en examinant dans quel état ça se trouve, notamment un des ennemis de vos modules, c'est quoi? C'est l'ensablement. C'est le premier ennemi, entre guillemets. Le passage du temps fait qu'ils s'enfoncent dans le sable et ils perdent de leur surface, c'est quoi ?
Alors certains, effectivement, oui. Notre ennemi, non, parce qu'effectivement, on ne va pas aller contre la nature parce qu'on l'a mis à cet endroit-là. Mais il n'empêche que là où vous avez raison, c'est que l'abrasion et les mouvements, en fait, les mouvements, en fait, sous-marins avec la houle, les mouvements, en fait, de l'océan font qu'effectivement, ça abrase et ça peut, effectivement, faire aussi des courants circulaires qui vont potentiellement, effectivement, qu'ils vont disparaître en partie. Mais pour une tempête suivante, ils vont ressortir. Donc, c'est aussi quelque chose qui, quand effectivement les plongeurs nous racontent ce qu'ils ont vu ou ce qu' ils n'ont plus vu, ça fait partie de la vie, effectivement, de nos récifs. Mais le sable, pour nous, est une composante, en fait, de notre écosystème des récifs.
Ouais. Oui, alors, j'ai vu aussi qu'il y avait... suivi par caméra, alors il existe toujours ou pas ?
Alors là, actuellement, il n'y a pas de caméra.
D'accord.
Cependant, cette année-là, on a fait de la photogrammétrie. Donc, pour l'étude qui est en cours là, avec l'université de Beauvais. Donc, on a fait de la photogrammétrie. Sinon, les suivis qui sont réalisés depuis le début, il y a eu des suivis sur les sédiments, le benthos, ça a été fait en amont pendant la thèse surtout. Il y a des mesures en plongée, des mesures de profondeur au niveau des récifs pour évaluer effectivement l'ensablement et évaluer leur durée de vie, etc. Dans le futur. Il y a des pêches expérimentales qui ont été réalisées aussi. Il y a du comptage poisson qui est réalisé chaque année. L'idée, c'est de faire vraiment un inventaire des espèces. Donc, les photos en font partie. Les grattages ont été faits par le passé.
Les prélèvements, oui.
Voilà, les prélèvements sur les récifs. Donc, il y a aussi de la photo-identification qui a été réalisée par Mathis Georges, qui consiste à essayer de suivre un petit peu l'individu, voir un petit peu si... effectivement, par exemple, le Saint-Pierre habite dans le gouffre, dans les profondeurs du gouffre, et il vient manger sur les récifs. Donc, l'idée, c'était de prouver cela. Et, voilà.
Oui, d'accord, c'est intéressant. Oui.
Et puis, en fait, poursuivre le suivi via, en fait, un ROV, un drone sous-marin.
Oui.
Donc, du coup, on était à la pointe, en fait, de la technologie. Où, effectivement, on n'avait pas la caméra, mais on pouvait, en fait, du bateau surveiller et voir, en fait, ce qui se passait dessous. C'est intéressant parce qu'on sort du côté élitiste de la plongée à quelque chose qui est potentiellement fait par quelqu'un qui n'y connaît rien, mais qui peut, en fait, être pilote de drone, mais pour sous l'eau.
Oui.
Mais ce que vous disiez, c'est intéressant parce qu'on a ce projet de remettre une webcam. Alors, ce ne sera pas une webcam en direct, parce qu'il n'y a pas la Wi-Fi à 20 mètres sous l'eau.
Il faut tirer une antenne, peut-être.
Non. Bon. Du coup, mais l'idée, c'est de partager un petit peu plus la vie marine en dehors de ce que les plongeurs sont capables de réaliser. Voilà. Donc, ça, c'est un projet. Vous parliez de l'actualité, en fait, on a gagné au budget participatif.
Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. C'est vrai.
C'est important parce qu'on a gagné en 2025 le budget participatif. Merci à tous qui nous écoutaient.
Merci
si vous avez
beaucoup.
Voté, pour notre projet. Et donc, en fait, dans ce cadre-là, on va immerger au sein des structures existantes des petits modules, en fait, avec une technologie qui s'appelle GeoCorail, et qui vont permettre d'augmenter le rôle de nurserie des récifs.
D'accord.
Donc voilà, c'est vraiment à destination des juvéniles, en fait.
C'est bien, tout ça, ça permet de maintenir, voire d'accroître la biodiversité nos côtes. Donc voilà, mais comme je disais tout à l'heure, si ça se voit... C'est une unité de mesure, mais si ça se voit sur l'étal du pêcheur, c'est qu'on voit qu'il s'est bien passé quelque chose. Donc voilà, félicitations en tout cas. C'est le moment de faire notre dernière pause. On se retrouve ensuite pour la dernière partie de cette émission. Et nous voilà de retour avec notre invité, puisque Myriam est là. Nelly a dû partir pour des raisons professionnelles. Donc on va finir avec Nelly la dernière partie de cette émission. Donc tout ça s'est fait, mais grâce aussi à des partenariats. Parce que c'était beaucoup de choses à accomplir. Qu'est-ce qu'on peut citer d'important
Alors, on peut citer Max, hein, qui est concessionnaire des concessions marines que l'on gère, bien sûr, avec Pierre Frosté qui nous soutient toujours, chaque jour, aujourd'hui remplacé par Régis Jeulesse, avec lequel on va probablement continuer cette belle aventure.
Bien sûr.
Et puis, le département aussi, à travers le budget participatif, mais pas seulement aussi, qui nous soutient depuis toujours. Mmh. La région qui nous a soutenus aussi, qui a permis tout ce qui existe aujourd'hui. C'est un peu plus compliqué aujourd'hui d'obtenir des financements, mais bien sûr, ils ont été là depuis le départ. Mmh. Et on a un soutien historique également, Action Pain, qui est basé à Casse-Tête, que vous connaissez, qui est une chouette entreprise aussi qui mérite de regarder ce qu'ils font. Et c'est vraiment dans le sens de la résilience. Mmh. On en parlait juste à l'instant.
Oui, on en parlait en antenne, mais effectivement, c'est important ça. Et alors les projets aussi, qu'est-ce qu'il y a comme projet? Bon, on a parlé tout à l'heure de cette étoffer les sites qui sont déjà équipés.
Oui, c'est ça. Et puis, étoffer. Alors, on envisage peut-être de faire un dossier au FEAMPA, de se rapprocher des pêcheurs pour ensemble monter un dossier de financement européen. C'est très complexe,
c'est
énorme, mais c'est peut-être ce qui s'ouvrira demain pour l'asso. Mmh. Et après, je voulais vous partager aussi qu'on a une expo photo qu'on peut mettre à disposition des structures qui le souhaitent. Partout dans les Landes, qui sont des photos qui ont été prises sous-marines, qui ont été prises par les pêcheurs, par les plongeurs bénévoles de l'asso. Et dans ce cadre-là, on fait parfois des animations auprès des écoles. Et c'est chouette en fait, parce que c'est souvent des écoles qui n'ont pas forcément la possibilité de venir sur la côte. Et puis on peut faire aussi un vernissage avec les photographes.
Oui.
Donc ça, c'est intéressant. On fait bien sûr on peut faire des animations auprès des écoles à la demande. Mmh. Donc n'hésitez pas si cela peut vous intéresser.
Oui, oui.
Et puis la conférence du 6 juin. Venez nombreux. Ça commence. C'est samedi 6 juin. Ça commence à 10h pour la conférence. Et puis à 14h, il y aura la fresque de la biodiversité.
On pourra vous rencontrer en plus.
On pourra rencontrer.
Après la radio, le réel, ça peut être sympa aussi.
C'est ça, tous les bénévoles actifs de l'asso.
comment dire, vous avez eu donc une doctorante, c'est ça, hein, qui a fait sa thèse à une époque. Ce serait bien aussi, pour l'instant on a discuté, c'est compliqué d'encadrer des stagiaires, parce que je sais qu'il y a pas mal d'étudiants qui sont intéressés par la mer, qui font des études de biologie marine, et ce serait sympa quand même si vous pouviez y en avoir certains sous votre aile, ça pourrait être sympa, mais c'est un peu compliqué à organiser.
Alors en fait aujourd'hui... c'est compliqué parce qu'on n'a plus une personne à temps complet, tout simplement, dans l'asso. Donc, accueillir quelqu'un, il faut que ce soit déjà pas une personne mineure, donc que ce soit des étudiants. Mais ça pourra se faire dans le cadre des projets qu'on a là. Là, on a travaillé avec l'université de Beauvais, Unilassalle, parce qu'ils ont travaillé en groupe. Donc, on s'est rencontrés en visio. Mais dans le cadre de ce qu'on va... immerger là le géocorail, on peut imaginer de prendre un stagiaire, un master sur la thématique.
Et vos besoins, alors évidemment, quand toutes les associations, je les connais, mais vous allez nous les dire.
Bah oui, on a besoin de bénévoles, on a besoin d'adhérents aussi qui nous soutiennent, tout simplement. Oui. L'adhésion, c'est 5 euros pour les étudiants, 20 euros pour les autres, c'est pas grand chose, mais c'est beaucoup pour l'asso.
Oui.
Au regard des institutions aussi, et puis donc voilà, un peu de temps à donner. Si vous avez des connaissances en biologie marine, c'est formidable, et sinon ça peut être aussi sur la com. Il y a plein de choses à faire au sein d'une association.
Voilà. Et puis voilà, des plongeurs, on en a parlé tout à l'heure, le côté participatif aussi, chacun peut mettre ses compétences et ses observations dans le pot commun qui va enrichir la base scientifique de tout ça, parce que toutes les données accumulées, tout ce que vous avez fait au cours du temps, c'est quand même pas négligeable, c'est une source, une manne, j'allais dire, pour des scientifiques, c'est des données utiles.
Tout à fait. Ces plongeurs bénévoles sont formés par le référent scientifique. Et donc, effectivement, c'est intéressant de plonger à travers les sciences participatives. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mmh, mmh.
Voilà. Oui, c'est vrai, comme on en a parlé en tête, ça existe pour les papillons, les oiseaux, hein, voilà. Mmh. Donc c'est vrai que voilà, ça, en plein de gens qui feraient des observations, ben, ce serait assez difficile d'avoir des chiffres qui ont une valeur vraiment utile, utilisable. Hein. Eh bien, merci beaucoup Myriam. Hein. Donc, bon, Nelly est partie.
Merci à vous.
Tant pis pour elle, c'est pas ce qu'elle perd. Voilà, merci beaucoup d'être venue nous parler ben, voilà, de ce projet. Et puis, comment, au fur et à mesure que l'émission a avancé, on s'est bien rendu compte que vous avez, ben, y a des impacts réels, voilà, sur vos actions qui sont mesurables maintenant, notamment sur la biodiversité et la présence et de la vie foisonnante. Et on espère que ça va continuer et qu'il y en aura de plus en plus, parce qu'on en a besoin, biodiversité.
Tout à fait.
Voilà. Et pas qu'à dans nos assiettes, dans nos esprits aussi.
Bon, voilà. Une partie arrive dans les assiettes et ouais. On est content aussi. Mais ouais. En tout cas, un grand merci à vous de nous avoir accueillis.
Merci beaucoup. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.